Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Olivier Tosserie.
6 mois se sont écoulés depuis que François occupe le siège de Saint-Pierre et déjà un vent de nouveautés souffle sur le Vatican. Bilan de l'action du nouveau Saint-Père à la tête de l'Église depuis 6 mois dans ce magazine. La 47e semaine sociale des catholiques italiens se tient à Turin. Le pape a envoyé un message au président de la conférence épiscopale italienne, un texte où Benoît XVI est largement cité. La famille également à l'honneur à Cracovie en Pologne où un colloque est organisé sur la famille dans l'Europe d'aujourd'hui. Il s'ouvre ce vendredi et se conclut ce samedi, il réunit des membres du clergé, le président polonais, des universitaires ainsi que des députés européens et des élus de différents pays de l'UE. Et puis il y a 20 ans, l'Israélien palestinien signait les accords d'Oslo. Quel bilan tirer aujourd'hui? Vous entendrez l'analyse de Charles Anderlin. Bienvenue dans ce magazine. Le pape souhaite que soit mis en évidence le lien unissant le bien commun à la promotion de la famille fondée sur le mariage, au-delà des préjugés et des idéologies. François a envoyé ce jeudi une lettre au président de la conférence épiscopale italienne, le cardinal Bagnasco, à l'occasion de la 47e semaine sociale des catholiques italiens qui s'est ouverte à Turin, dans le nord de l'Italie, sur le thème de la famille, espérance et futur de la société italienne. Plus qu'un thème sur lequel discuter la famille, c'est la vie, le chemin de générations qui se transmettent, la foi, l'amour et les valeurs morales fondamentales, une solidarité concrète, la fatigue, la patience, mais aussi un projet, une espérance, un avenir. Pour le pape, la famille est le levain dans la pâte de la société tout entière. Plus de précisions sur ce message avec Jean-Baptiste Cocagne.
François rappelle la vision de la famille pour l'Église, celle de l'unité dans la différence entre hommes et femmes. En tant qu'Église, nous proposons une conception de la famille qui est celle du livre de la Genèse, écrit le pape. Nous y reconnaissons un bien pour tous, la première société naturelle, comme elle est aussi reconnue dans la Constitution italienne. Partant de ce constat, François souhaite réaffirmer que la famille reste le premier et le principal sujet qui construit la société et une économie à mesure d'homme. Et ainsi conçue, la famille mérite d'être effectivement soutenue. Sans évoquer le mariage homosexuel, le pape rappelle dans cette lettre que les conséquences, positives ou négatives, des choix culturels et politiques concernant la famille touchent à divers pans de la société. François évoque le problème démographique, qui est grave pour tout le continent européen. Le pape aborde également les questions de l'économie, du travail et même la vision anthropologique à la base de notre civilisation. Le pape invite donc à se montrer fraternel et solidaire, à être proche avec respect des familles en souffrance, frappées par le manque de travail, le problème du logement, l'impossibilité pratique de mettre en œuvre ses choix éducatifs, les faillites de l'expérience conjugale et familiale, ou encore la violence, hélas, qui fait son nid et provoque des dégâts à l'intérieur des maisons. Le pape n'ignore pas ces souffrances, mais tient à rappeler que tant de familles vivent l'expérience du mariage ou de la parentalité dans la joie et sans peur d'affronter les moments de la croix, vécus en union avec celle du Seigneur. Ces épreuves peuvent rendre l'amour plus fort, conclut le pape.
Ces derniers mois, justement, la famille a été au cœur des discussions en France à cause du mariage homosexuel. L'Église n'a pas hésité à faire valoir son point de vue et sa conception de la famille à cette occasion. Mais les débats autour de la famille, d'une manière plus générale, ne se limitent pas évidemment à la France et à la question du mariage pour tous. Dans toute l'Europe, la réflexion sur ce qui représente la cellule de base de la société est alimentée en permanence et l'Église catholique y prend toute sa part. Exemple, avec un nouveau cycle de conférences sur le rôle de l'Église catholique dans le processus européen d'intégration promu par différents organismes et universités, dont l'université Jean-Paul II de Cracovie, la fondation Konrad Adenauer et la Comessé. Organisée à Cracovie en Pologne, le colloque sur la famille dans l'Europe d'aujourd'hui s'ouvre ce vendredi et se conclut samedi. Il réunit des membres du clergé, le président polonais Bronisław Komorowski, des universitaires ainsi que des députés européens et des élus de différents pays de l'UE. Tous se penchent sur la famille pendant 2 jours. Les précisions de Xavier Sartre.
Mariage civil ouvert aux homosexuels dans de nombreux pays européens, augmentation des divorces, familles monoparentales de plus en plus nombreuses, personnes âgées abandonnées par leurs proches, la famille semble en crise et les débats qui ont agité la France en début d'année ne doivent pas occulter le fait que toute l'Europe est concernée par cette évolution de la société. Pas question cependant de dire que la famille est en crise pour la Slovaque Anna Zaborska, députée européenne au sein du Parti populaire européen.
Il n'y a pas la crise de la famille. La famille est toujours la même. La famille est bien définie. La famille est une valeur naturelle. Ce qui est en crise maintenant, ce sont les relations vis-à-vis de la famille. Comment les gens regardent la famille? Comment ils définissent la famille? Comment ils veulent affaiblir la famille? Les gens qui vivent dans les familles naturelles, avec toute cette pression, ils deviennent de plus en plus faibles. Ils perdent le courage. Ils ont même des doutes si leur façon de vie est tout à fait normale.
Pourtant, le projet européen tel que conçu à ses débuts et poursuivi par la suite s'est construit notamment autour de la famille, comme l'explique le député européen français Jean-Pierre Audy du Parti populaire.
L'objectif des peuples européens, lorsqu'ils ont décidé d'unir leur destin, c'est au fond de fonder une civilisation humaniste, et qu'à partir du moment où nous souhaitons créer une civilisation, il faut la créer sur l'amour et pas la haine. Et la famille a démontré qu'elle s'appuyait sur les valeurs qui sont celles de l'Union européenne. Alors la famille, jusqu'à preuve du contraire, est quand même l'organisation la plus solide pour permettre à la fois la stabilité sociale et aussi l'assurance de la prospérité humaine de nos sociétés. Parce que c'est dans la famille que s'organise à la fois la naissance des enfants, l'organisation sociale. Si nous détruisons ce mode d'organisation autour de la paternité et la maternité, qui est le socle et la base de l'organisation familiale, à ce moment-là, on ne sait pas où on va.
Et cette dérive dénoncée par le député français pourrait déboucher sur une société qui mettrait un terme au lien naturel entre les parents et l'enfant pour faire de ce dernier un produit mercantile. Si les sociétés européennes sont pour l'instant loin de cette vision pessimiste, Anna Zaborowska a cependant débusqué quelques détails dans la législation européenne sur la famille qui accréditerait cette vision purement fonctionnaliste des membres de la cellule familiale, exemple avec les lois sur le congé maternité.
Tout le texte, vous ne trouvez pas un seul mot de la mère, l'enfant, la famille ou la protection de maternité. On parle de la protection et la sécurité au travail des travailleuses enceintes, allaitantes et qui ont accouché. Alors, la femme, la mère est liée toujours avec le travail. Pas avec la famille, mais avec le travail, avec la vie publique.
C'est pour rendre à l'humain sa vraie place et sa dignité que l'Église catholique a toujours défendu la famille, que ce soit depuis le Vatican, au travers des interventions du pape et de la curie, ou au niveau des épiscopats nationaux. L'Église sait que la défense de la famille passe par la conversion des cœurs et un long et patient travail de pédagogie auprès des décideurs politiques.
Six mois se sont écoulés depuis que François occupe le siège de Saint-Pierre et déjà un vent de nouveau souffle sur le Vatican, plus sur la forme que sur le fond, car force est de reconnaître que le pape n'a pas encore dévoilé les grands axes de l'action qu'il mènera à la tête de l'Église. Dans une interview à Radio Vatican, le père Lombardi revient sur les six premiers mois du pontificat de François. Comme le fait le pape dans ses homélies, le directeur de la salle de presse du Saint-Siège propose trois mots pour qualifier trois nouveautés apportées par ce pontificat. François, il y a d'abord ce nom choisi par le cardinal Bergoglio le jour de son élection, et depuis le pape lui-même s'en est expliqué, François renvoie aux pauvres, à la paix et à la sauvegarde de la création. Deuxième idée, mise en exergue par le père Lombardi, la fin de l'eurocentrisme. Tous les papes sont universels et ont eu le monde entier à cœur, mais le choix d'un pape qui vienne d'un autre continent signifie quelque chose de spécifique dans le style, le rapport direct de François avec les gens, son langage simple et son rapport à la pauvreté et pour le futur de l'Église. Enfin, dernier mot clé cité par le père Lombardi, la mission. Le nouveau pape insiste sur le fait que l'Église ne doit pas être autoréférentielle, mais en mission. Avec François, la barque de l'Église voyage avec détermination vers le large, sans peur et même avec la joie de pouvoir rencontrer le mystère de Dieu dans de nouveaux horizons. Le 13 mars 2013, donc, il y a tout juste six mois, le cardinal Roger Maria Bergoglio, archevêque de Buenos Aires, devenait le 266e pape de l'Église catholique et prenait le nom de François, un pape sud-américain et un jésuite, deux premières dans l'histoire de l'Église. En six mois, le pape argentin est parvenu à imposer un nouveau style, bousculant les habitudes protocolaires, posant des gestes forts et symboliques symbolique, établissant une nouvelle manière de communiquer. François parle un langage simple, imagé et sans ambages, celui qui exhorte l'Église à sortir de soi, à aller aux périphéries de l'existence, qui désire une Église pauvre pour les pauvres, a conquis le cœur des fidèles. Pour Lucetta Scarafia, historienne, journaliste et coordinatrice du supplément féminin mensuel de l'Osservatore Romano, ces nouvelles manières de faire révolutionnent incontestablement la papauté, notamment dans le rapport du pape au peuple des croyants. Il ne parle pas au peuple, il veut parler à chacun et à son cœur, observe-t-elle. Les appels téléphoniques qu'il passe, les lettres qu'il envoie l'illustrent bien. C'est une individualisation du rapport entre le pape et le monde qui est en train de se créer. Nombre de dossiers cruciaux attendent encore François, réforme de la curie et des structures internes de l'Église, lutte contre la corruption, entre autres. Lucetta Scarafia avoue, pour sa part, être sensible à la question des femmes dans l'Église. Les propos du pape à ce sujet dans l'avion le ramenant des JMJ de Rio ont été encourageants et prometteurs, mais elle s'attend à des gestes concrets.
Le premier a été ce colloque avec les journalistes dans le retour du voyage au Brésil. Lorsqu'il a choisi de parler aux journalistes au retour, que c'est une révolution, car les autres papes parlaient toujours à l'aller, et a été une très bonne idée médiatique, car pour les autres papes, nous avons vu pour Benoît XVI, qu'après le voyage, c'était déterminé par ce qu'il avait dit aux journalistes dans le voyage d'aller. Au contraire, en parlant avec les journalistes dans le voyage de retour, le voyage était libre d'interprétation, librement à découvrir. Et dans le voyage de retour, il a dit des choses très fortes, très importantes, sur les femmes, sur la curie, et ça a été très important. Ont été très importants les coups de téléphone qu'il a donnés, car ils sont le symbole d'un différent rapport avec le peuple des croyants. Car il ne parle pas à tout le peuple ensemble, mais il veut parler à chacun à son cœur. Et je pense qu'après les coups de téléphone, après la lettre qu'il a écrite à Eugenio Scalfari, chacun pense que le pape parle à lui. C'est une individualisation du rapport entre le pape et le monde.
Peut-on dire que le pape François est en train de révolutionner la papauté?
Ah oui, je pense que oui. Révolutionner la papauté, mais pas seulement pour la choix de rester dans le Santa Marta, de vivre plus pauvrement. Mais il a révolutionné dans les rapports avec le monde. Surtout ça a changé.
Le pape François a évoqué des sujets très intéressants lors de son retour de Rio, notamment tout ce qui a trait aux femmes, au rôle de la femme dans l'Église. C'est un sujet auquel vous êtes très sensible. Qu'est-ce qu'on peut envisager comme perspective dans ce domaine?
J'espère qu'il va agir pratiquement, que c'est la choix qu'il a fait de changer d'attitude pour les femmes et d'ouvrir aux femmes des places dans les conseils pontificaux.
Seulement ça ou est-ce que vous voyez d'autres postes, d'autres rôles clés que la femme pourrait peut-être se voir confier autre que dans les conseils pontificaux?
Elle doit faire partie du gouvernement de l'Église, elle doit décider même. Elle doit être recteur des universités catholiques et surtout les femmes doivent enseigner dans les séminaires, car les nouveaux prêtres doivent connaître les femmes comme des gens de respect et d'autorité. La présence des femmes dans l'Église, une vraie présence, pas une présence clandestine comme c'est maintenant, mais une présence reconnue et respectée, va changer l'Église dans un sens meilleur.
Le pape a reçu ce vendredi en la salle Paul VI au Vatican les quelques 3000 membres de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem pour un pèlerinage dans le cadre de l'année de la foi du 13 au 15 septembre. Les chevaliers s'engagent à l'origine à la défense de l'Église, la protection de la Terre Sainte et la pratique de la charité en particulier envers les orphelins. Aujourd'hui, après les réformes du pape Pie IX, l'ordre poursuit deux buts fondamentaux. promouvoir la pratique de la vie chrétienne parmi ses membres et fournir une aide morale et matérielle à l'Église qui est en Terre Sainte. Présent dans 35 pays, l'Ordre du Saint-Sépulcre est présidé par un cardinal grand maître assisté par un gouverneur général. Il poursuit ses œuvres de bienfaisance. Entre 2002 et 2012, il a fait parvenir plus de 98 millions de dollars pour la construction ou la rénovation d'églises, d'écoles et d'hôpitaux en Terre Sainte. Plus de précisions sur l'audience accordée par le pape aux membres de l'Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem dans nos prochaines éditions. Il y a 20 ans, le 13 septembre 1993 à Washington, Yitzhak Rabin, premier ministre israélien, Yasser Arafat, président du comité exécutif de l'OLP, scellait en une poignée de main les accords d'Oslo. Israéliens et Palestiniens officialisaient ainsi une reconnaissance mutuelle et ouvraient la voie à un processus de négociation devant aboutir à la création d'un État de Palestine aux côtés d'Israël. L'image de cette poignée de main historique et hautement symbolique fera le tour du monde et restera gravée dans les mémoires. Le conflit israélo-palestinien semblait enfin s'acheminer vers une résolution. La paix semblait enfin à portée de main. Ce processus de paix sur lequel se fondait l'espoir des uns et des autres n'aura pu résister aux extrémismes de tous bords, aux radicalisations, aux promesses non tenues, aux spirales de violence. 20 ans après, le constat est unanime. L'échec d'Oslo laisse un goût amer et la désillusion a pris le pas sur l'espoir. Charles Anderlin est journaliste, correspondant de France 2 à Jérusalem et auteur de nombreux ouvrages sur Israël et le Proche-Orient. Témoin de premier plan de ces événements, il évoque l'enthousiasme de courte durée soulevé alors par les accords d'Oslo et analyse les raisons de son échec.
L'ambiance était parfois ambivalente. D'abord, la gauche fêtait l'événement. Enfin, on avançait vers un accord avec les Palestiniens. L'OLP était reconnue. L'OLP renonçait au terrorisme. L'OLP reconnaissait le droit d'Israël à la sécurité. Dans l'accord lui-même, il n'était question que d'autonomie, une autonomie limitée, avec ensuite des négociations pour aller plus loin. Mais les scènes étaient effectivement des scènes totalement différentes. Imaginez que fin août, tout début septembre, il était interdit à un Palestinien d'agiter le drapeau palestinien, l'emblème national. Un soir, Rabin signe la lettre de reconnaissance commune de l'OLP et puis le lendemain matin, une scène à Gaza, à l'entrée d'un camp de réfugiés. Une jeep est là avec deux militaires israéliens, puis il y a un enfant qui arrive qui met un petit drapeau sur la jeep et il s'en va. Les Israéliens ne bougent pas. Il y a un deuxième gosse qui arrive, met un deuxième drapeau et tout à coup, une foule immense avec une forêt de drapeaux palestiniens à pied, sur des ânes, sur des chevaux, en agitant des drapeaux palestiniens, sortent du camp, passent devant la jeep, il se passe rien, les gens applaudissent. C'était une autre ambiance très différente de ce qui a existé dans les années suivantes.
Justement, les années suivantes, il y a un véritable cycle de violence qui s'engage, des attentats suicides, l'assassinat d'Yitzhak Rabin par un extrémiste juif, la seconde intifada. 20 ans après les accords d'Oslo, l'espoir de paix est mort. Pourquoi, selon vous, est-ce que le processus était voué à l'échec dès le début ?
D'abord, les choses ne sont pas allées assez vite, à mon avis. Il aurait fallu très vite négocier le statut définitif pendant qu'il était encore temps, parce que l'accord, un accord entre Israël et l'OLP a ici énormément d'ennemis. D'abord le Hamas, on a les extrémistes israéliens, le Likoud, qui jusque tout récemment rejetaient l'idée même d'un État palestinien sur la terre d'Israël. Donc les deux camps étaient en face à face. On a eu les attentats suicides, vous l'avez mentionné, l'assassinat de Rabin avec la droite nationaliste, religieuse et les colons qui ont lutté contre cet accord. À partir de là, Shimon Peres, qui a succédé à Rabin, a cru que la droite le laisserait négocier rapidement, mais non, il y a eu le Hamas qui a lancé des attentats suicides. L'insécurité dans la rue israélienne a fait basculer l'opinion publique. Netanyahou a été élu, la colonisation a été relancée. Alors effectivement, aujourd'hui, on ne voit pas très bien comment un accord peut être conclu avec plus de 350 000 colons en Cisjordanie, près de 200 000 à Jérusalem-Est. Reste le problème à Jérusalem, dans la vieille ville du Mont du Temple, qui est le seul lieu saint juif, mais qui est aussi le troisième lieu saint de l'islam, aujourd'hui contrôlé par les musulmans. Et là, je ne vois pas très bien comment il sera possible de parvenir à un accord, parce que de plus en plus, le conflit est en train de devenir religieux, il n'est plus territorial.
« C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Je vous renvoie à notre site internet www.radiovaticana.org ainsi que sur notre page Facebook Radio Vatican en français.